vraie galère qui commence dans les transports. Alors qu'hier, les Français s'étaient organisés, ils étaient de retour aujourd'hui dans les rares trains en circulation. Même constat sur la route avec près de 600 km de bouchons ce soir en Ile-de-France. On fera le point sur les prévisions pour ce week-end. Car le bras de fer politique, lui, continue. Les syndicats lancent une nouvelle manifestation mardi. Quant à Édouard Philippe, c'est mercredi qu'il présentera sa réforme des retraites. Nous verrons concrètement sur quoi il peut négocier. Dans l'actualité également, ces lettres anonymes envoyées à certains CRS, elles menacent les policiers de représailles sur leurs proches en cas de nouvelles blessures dans les manifestations. Une enquête est en cours. Cette histoire incroyable en Espagne, une femme piégée dans une tempête de neige est revenue à la vie après 6 heures d'arrêt cardiaque. Et vous le verrez, elle va très bien. Dans ce journal, nous irons aussi en Chine, où l'architecture européenne fascine tellement que des mini-Venise ou des petits Paris sont sortis de terre un peu partout, même si nous sommes loin, très loin de l'immeuble haussmannien. Et puis il arrive parfois que la copie rivalise avec l'original. Des marionnettes qui ressemblent à s'y méprendre à de vrais chevaux. Le nouveau spectacle de la scène musicale est troublant de réalisme. On a beaucoup parlé d'un jeudi noir, mais que dire de ce vendredi qui vient de s'achever? Hier, les Français avaient pris leurs précautions, mais aujourd'hui, beaucoup ont dû retourner au travail et l'on a vraiment pu mesurer la paralysie des transports. Dans les gares, les rares trains ont été pris d'assaut. Sur la route, les bouchons ont atteint des records ce soir en Ile-de-France. Radioscopie de cette grève qui ne faiblit pas avec Johan Engen, William Rouzet et David Salmon.
Même en partant très tôt, la voiture n'était pas la meilleure solution pour rentrer chez soi. Toutes les routes d'Île-de-France au ralenti. À 18h, 600 km d'embouteillage, deux fois plus que d'habitude.
Et là, ça fait plus d'une heure, une heure et demie qu'on est en train de subir les bouchons.
C'est la galère. Hier, c'était super. Il n'y avait personne sur la route. Et aujourd'hui, tout le monde est revenu.
Dans les transports en commun aussi, hier, c'était le calme plat. Mais aujourd'hui, la foire d'empoigne. Sur les quais parisiens ce soir, très peu de trains et beaucoup trop de monde.
Tout le monde avait peur de le 5 décembre, mais c'était, je trouve, plus dur aujourd'hui.
Le soir, c'est très compliqué parce que on arrive tous au même endroit pour repartir, pour rentrer chez nous.
Pourquoi une telle situation? Car tout le monde a fait hier comme madame.
Je vais poser un jour. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller travailler, je ne peux pas poser un deuxième jour.
D'autres avaient opté pour le télétravail, ou bien comme cette aide-soignante, pour le covoiturage. Mais aujourd'hui, elle subit. Elle a dû quitter son travail 2 heures plus tôt.
Ça m'inquiète parce qu'au niveau de la vie de famille, la garde des enfants, il faut aussi s'organiser sur ce côté-là, donc c'est pas évident.
Dans les autres villes françaises, comme ici à Lyon, la plupart des TER ont été supprimés ou remplacés par des bus. À Lille, seulement un TER sur 10, il est 17h, voici le dernier de la journée.
On a dû aménager nos horaires de travail par rapport au train.
Ce soir, tous ont un seul espoir en tête, que ce ne soit pas encore pire lundi prochain.
Et vous l'avez entendu, beaucoup sont déjà au bout de leur solution. Télétravail, RTT, ces moyens d'éviter la grève ont aussi des limites qui risquent d'être très vite atteintes. En voici quelques exemples avec Thomas Jarion et David Bordier.
Dans l'entreprise de Sarah, les règles sont claires. Le télétravail est réservé à ceux qui habitent à plus de 45 minutes de marche du bureau. Ce n'est pas son cas, alors elle a sorti les baskets.
Je le ferai le temps qu'il faudra, mais c'est vrai que le plus court sera le mieux.
Son employeur, un site d'annonces immobilières. Aujourd'hui, 50% des employés travaillent à la maison.
C'est un peu clairsemé aujourd'hui.
Faire tourner l'entreprise à grand renfort de visioconférence, c'est possible, mais pour un temps seulement.
Des fonctions comme le service client ou le commercial, ils ont besoin d'accéder à certains logiciels ou à certaines données auxquelles ils ne peuvent pas avoir accès en télétravail. Jusqu'à mardi, c'est tenable. Au-delà de mardi, on commencera à connaître des impacts significatifs.
Quand le télétravail est impossible et que venir au bureau est trop compliqué, la solution, c'est de poser des congés. Il y a ceux qui ont des réserves de RTT.
Ça va, j'ai un stock un petit peu élevé, donc ma RH sera content que j'en pose, mais moi un peu moins.
Et ceux qui, comme Elisa, ont dû poser un congé sans solde.
Vous allez pouvoir faire beaucoup de congés sans solde dans les semaines à venir?
Non, je pense pas que ce sera possible d'en mettre un autre, donc je devrais m'organiser autrement. Là, pour l'instant, je sais pas encore comment faire.
Dans ce magasin de jouets, pas de télétravail, ni de RTT pour les 8 vendeurs. Et pour cause, c'est bientôt Noël.
C'est 50% de notre chiffre d'affaires en fin d'année. Donc on se doit d'être là, d'être ouvert.
Pour éviter les absences et les retards, l'enseigne offre la nuit d'hôtel aux employés, à 2 minutes à pied du magasin.
C'est le PDG qui m'a dit de prendre directement l'hôtel le plus proche.
Ce soir, Audrey va passer ici sa 3e nuit.
Même si la chambre est à 100 € la nuit, il faut automatiquement que nous, on puisse être logés pour qu'on puisse être au magasin.
L'enseigne est prête à payer le temps que dure la grève, plusieurs mois s'il le faut.
Et on va tout de suite voir à quoi il faut s'attendre dans les jours qui viennent. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Anne-Claire.
Alors il y a les prévisions pour ce week-end et puis il y a les grosses interrogations pour lundi prochain.
Oui, commençons par ce week-end qui s'annonce très compliqué, principalement dans les transports. Alors très légère amélioration du côté de la SNCF tout de même. Un TGV sur 6, demain un TER sur 10 et puis dimanche un TGV sur 6 et 2 TER sur 10. Mais les journées de lundi et de mardi s'annonce très compliqué. L'autre gros point noir, Anne-Claire, dans les transports, c'est l'Île-de-France. Avec la RATP, les rares métros et RER ne circuleront demain que de 13h à 18h. Et puis dimanche, ça s'annonce encore beaucoup plus compliqué. En revanche, bonne nouvelle dans le ciel, retour à la normale. Air France, par exemple, dit pouvoir assurer 100% de ses vols demain. Et puis pour ce qui concerne les autres secteurs comme la santé, l'éducation, l'énergie, l'intersyndicale qui s'est réunie ce matin appelle les salariés à la grève lundi, mais seulement s'ils le veulent. Priorité, nous a-t-on dit, est donnée à mardi pour, je cite, des grèves et des manifestations massives. La suite du mouvement sera d'ailleurs décidée juste après cette nouvelle journée de mobilisation.
Merci beaucoup Thierry pour ces précisions. En tout cas, ces derniers jours, certains se sont convertis à de nouveaux modes de transport. Il n'y a jamais eu autant de vélos, de trottinettes sur les routes. Même les bateaux, vous allez le voir, sont appelés à la rescousse. Pierre Galassio et Cédric Eben.
En temps normal, c'est un moyen de transport surtout utilisé par les touristes pour admirer Paris de la Tour Eiffel au Jardin des Plantes. Mais depuis hier, il y a de nouveaux clients.
Moi, je l'utilise, c'est juste pour la grève, pour gagner du temps. Parce que là, faut que je me tape Musée d'Orsay jusqu'à la gare du Nord à pied. Et j'en ai pour une heure.
Le bateau-bus fait gagner 20 minutes de marche à ce cuisinier. Il habite en Seine-Saint-Denis. Et demain, si les clients comme lui sont plus nombreux...
Si c'est comme en 95, si la demande nous tombait dessus, nous serions capables de répondre sans aucun problème dès 7h du matin, voire jusqu'à 20h, 21h pour ramener les gens chez eux.
Autre solution, les trottinettes électriques en libre service. À Paris, il y a une dizaine d'opérateurs différents. Celui-ci propose des appareils dans la capitale et à Lyon.
Alors, il y a 3000 trottinettes déployées et on a à peu près 2 fois plus d'utilisation pendant les heures de pointe. Le trajet moyen hier, c'était 3,2 km. La moitié, c'était domicile, travail, travail, domicile.
Évidemment, le taux d'utilisation dépend fortement de la météo. Et quand il pleut, ça en décourage beaucoup.
Pour aller plus loin, plus vite, il y a aussi les scooters en libre service. Cette entreprise en propose à Paris et à Nice.
Par rapport à la semaine dernière, on est quasiment à 50% de location en plus.
Comptez une dizaine d'euros pour une demi-heure, bien moins cher qu'un taxi dont le tarif au compteur ne varie pas avec la grève, contrairement au prix des chauffeurs privés, à la hausse en raison d'un algorithme qui gonfle les tarifs à cause de la forte demande. Par exemple sur un trajet Paris, aéroport de Roissy.
On a relevé des prix qui pouvaient aller jusqu'à 126 euros, là, au maximum, alors qu'en temps normal, c'est un trajet qui fait 50 euros.
Alors si la météo reste maussade dans les jours à venir, pour se déplacer sans se ruiner, il faudra s'équiper.
Ça va très bien et voilà. Bonne journée à vous, bonne grève.
Et du côté du bras de fer politique, après la forte mobilisation d'hier, il n'était sans doute plus possible pour le gouvernement de rester silencieux. Édouard Philippe a donc pris la parole aujourd'hui, intervention surprise, avec un calendrier. C'est mercredi à midi qu'il présentera en détail son projet de réforme sur les retraites. Édouard Philippe qui envoie 2 messages. Les régimes spéciaux doivent disparaître, mais pas dans la brutalité. Je vous propose de l'écouter.
Je le dis tranquillement. La mise en place d'un système universel de retraite implique la disparition des régimes spéciaux. Je dis également à tous les personnels de la RATP et de la SNCF et à tous les Français qu'il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste de changer les règles en cours de partie. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué et je répète aujourd'hui ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives. Progressives afin de ne pas être brutales.
Alors, quelles sont concrètement ces pistes de négociation et d'aménagement dont parlait à l'instant Édouard Philippe? Sur quel mécanisme le gouvernement peut-il jouer pour répondre aux inquiétudes sur la baisse des pensions ou encore sur la pénibilité? Écoutez ces hypothèses rassemblées pour nous par Camille Cotin.
Les voilà au pied du mur. Jean-Paul Delevoye en charge du dossier des retraites et le Premier ministre promettent déjà quelques aménagements. Que peuvent-ils concéder? Du temps pour commencer, en appliquant la réforme plus tard que prévu. Elle devait entrer en vigueur en 2025. Cela pourrait être décalé à 2030 ou même 2035. En clair, ne serait plus concernée la génération 1963. Le nouveau régime de retraite pourrait plutôt s'appliquer aux personnes nées après 1973. Dans la majorité, l'idée a fait son chemin.
Ça donnerait plus de temps pour construire les transitions. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer qu'il était important de prendre le temps, notamment pour s'occuper de certaines professions avec qui il y a tout un travail de co-construction à faire, notamment les enseignants.
Dans la fonction publique, certains corps de métier pourraient bénéficier de transitions encore plus longues. Et même de primes, d'augmentation aussi. Le salaire des enseignants, par exemple, devrait être revalorisé pour compenser cette réforme qui leur est pour l'instant défavorable.
Il y a deux façons de faire. Soit on choisit, pour les enseignants comme pour les autres d'ailleurs, de repousser la réforme dans le temps en prenant un risque de ne jamais faire de réforme. Soit on accepte le principe, pour les enseignants aussi, qu'il y a un coût de transaction à payer.
Il est évalué par exemple à 400 millions d'euros par an pour les enseignants. Reste enfin la question de la pénibilité. Comment la quantifier dans la fonction publique? Aucune réponse n'est apportée pour le moment. Seule certitude, militaires, policiers et pompiers conserveront la possibilité de départs anticipés.
Le gouvernement qui était aussi suspendu à cette question, le privé, va-t-il rejoindre le secteur public dans cette grève? À Bordeaux, par exemple, vous allez le voir, l'exploitation des trams et des bus est assurée par Keolis, une entreprise privée, et les transports fonctionnaient normalement aujourd'hui. Guillaume Ployer et Nicolas Forestier.
Une journée comme les autres à Bordeaux dans les transports en commun, bus, tramway, aucune perturbation sur le réseau, pour le plus grand bonheur des usagers.
Tout fonctionne très très bien. J'ai pris mon tram ce matin, nickel, et puis là je le reprends, a priori pas de problème, donc voilà, tout va bien.
Et d'avoir des transports en commun qui fonctionnent, c'est essentiel, et puis voilà, c'est quand même très pratique.
Dans la capitale girondine, c'est le groupe Keolis qui exploite le réseau de transports en commun, une société privée dont 70% du capital est détenu par la SNCF.
Nos conducteurs étant, comme l'ensemble de nos salariés, soumis au régime général des retraites de la sécurité sociale, ne sont pas concernés par les régimes spéciaux qui prévalent dans des entités comme la RATP ou la SNCF.
À Bordeaux, 60% des 1700 conducteurs en grève hier, mais seulement une poignée d'entre eux aujourd'hui. Moins mobilisés que dans d'autres villes françaises, ils entendent tout de même poursuivre la grève.
Nous privilégions des journées bien ciblées, bien précises. La semaine prochaine, c'est très important pour Bordeaux Métropole, donc nous verrons ce que nous allons faire.
Jusqu'à la nouvelle journée d'action nationale mardi prochain, les usagers des transports en commun bordelais pourront se déplacer tranquillement.
Et puis cette question toujours riche d'enseignements, comment les étrangers vivent cette contestation sociale alors que les touristes sont nombreux, notamment à Paris en cette période de fin d'année? Cela les a-t-ils découragés? La comprennent-elles? Reportage Delphine Sidbon, Gwenaël Bellec et Karine Bourdet.
Sale temps pour les touristes dans la capitale.
Tout
est fermé, les transports, le métro, et il y a beaucoup de gens en vacances ici.
On n'a pas pu aller dans tous les endroits qu'on voulait et on a beaucoup marché, c'est un peu une souffrance. Et on a pris un Uber, ça nous a coûté 56 euros.
Pour visiter Paris, il fallait mettre la main à la poche, car quasiment impossible de compter sur les transports en commun, depuis le Sacré-Cœur jusqu'à la Tour Eiffel par exemple. Si vous arriviez à monter dans les quelques métros et bus qui circulaient, comptez 1h20 de trajet au lieu de 30 minutes en temps normal.
On fait tout à pied, enfin, sauf ce trajet en taxi.
On marche beaucoup, mais c'est pas plus mal. On voit peut-être encore plus Paris comme ça. La Tour Eiffel était fermée hier, faute de personnel, mais elle a pu ouvrir normalement aujourd'hui.
Il y a des grèves en Italie, mais pas comme ça. Les Français sont pas peu révolutionnaires en Italie, non.
Italie, non.
Ce qui est surprenant avec cette grève, c'est qu'elle est énorme. Aux États-Unis, les grèves touchent un secteur d'activité à la fois, et là, c'est tout le monde.
Pour se déplacer, certains, comme ces Américains, ont choisi le bus touristique. Belle vue sur Paris en grève, pour 34 euros la journée.
On voulait aller à Disneyland aujourd'hui, mais comme il n'y avait pas de train, on n'y est pas allé.
Très peu de trains pour Disneyland Paris, mais la direction assure que la fréquentation n'a pas chuté. Ces Espagnols nous donnent l'astuce.
On est arrivé à Paris en avion, et ensuite on a pris une navette direct pour Disneyland.
Réussir à s'y rendre est une victoire, mais l'histoire ne dit pas si le charme du parc d'attractions résiste à la pluie.
Du côté des blocages des raffineries, enfin, sachez que 4 raffineries de pétrole sur 8 sont toujours en grève. Ce soir, elles étaient 7 hier et il n'y a pas pour l'instant de pénurie d'essence. Les stations, parfois à sec, sont régulièrement réapprovisionnées. Voilà ce que nous pouvions dire donc ce soir sur cette réforme des retraites sur LCI Canal 26. Sachez que Damien Giblet reviendra longuement avec ses invités sur les prochaines prochaines échéances. Un mot également pour vous dire que la prime de Noël a été confirmée aujourd'hui par le gouvernement. Cette prime versée chaque année sera perçue par 2 300 000 foyers français parmi les plus modestes, soit 152,45 euros pour une personne seule. Versement effectué le 13 décembre prochain. Venons-en maintenant à l'autre grand titre de ce vendredi, ces lettres anonymes envoyées au domicile de certains CRS. Les auteurs promettent de s'en prendre à leurs proches en cas de nouvelles blessures du côté des manifestants. À partir de maintenant, ce sera œil pour œil, peut-on y lire. Une menace, vous allez l'entendre, très mal vécue par les policiers. Jérôme Garou et Olivier Santi.
Menacés directement dans leur foyer. Au total, une dizaine de CRS ont reçu la même lettre à leur domicile. La voici. Écrite en lettres capitales. Son auteur menace les policiers présents lors des manifestations, notamment de gilets jaunes. La seule chose que je connais de vous est votre attirance pour la violence derrière vos ordres. À partir de maintenant, ce sera œil pour œil. Pensez à votre famille que vous laissez seule les week-ends. En bas de cette lettre, une signature. ACAB, pour All Cops Are Bastards. Traduction en français, tous les flics sont des salauds. Un acronyme souvent tagué lors des manifestations. Michael est l'un des policiers qui a reçu cette lettre de menace. Il raconte.
Sur le coup, ça m'a fait quand même un peu peur, quoi. J'ai pensé à ma femme et mes enfants. Il y a des groupuscules qui recherchent des informations sur nos identités, nos adresses. C'est pas normal, vous vous rendez compte, on sert notre pays, on sert la population, et on se sent menacé.
Inquiétude et colère des syndicats de police qui prennent ces menaces très au sérieux.
L'état d'esprit des collègues va pas être du tout être serein, l'inquiétude. Au moindre coup de fil de la famille, quand le téléphone va sonner, ils vont être très inquiets. Voilà, donc nous, on veut pas que les collègues vivent cette façon de faire qui arrive de plus en plus, notamment voilà, où on veut tuer du flic, tout simplement.
Comment l'auteur de ces lettres s'est-il procuré les adresses personnelles des CRS? Très probablement en consultant le site internet du journal officiel. Certaines nominations de fonctionnaires de police y sont systématiquement publiées. L'affaire fait réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur. Une enquête a été ouverte pour retrouver le ou les auteurs de ces lettres.
Des hommes de courage et d'honneur, ces mots ont été prononcés aujourd'hui à Nîmes par Emmanuel Macron, hommage aux 3 sauveteurs tués le week-end dernier dans l'accident de leur hélicoptère. Ils étaient en train de porter secours à des habitants coincés par les intempéries dans le Var. Jean Garat, Michel Escalin et Norbert Savornin appartenaient tous trois à la sécurité civile. À l'étranger, cette image très forte aujourd'hui à Auschwitz, en Pologne, pour la première fois de son mandat de chancelière allemande, Angela Merkel s'est recueillie dans l'ancien camp de concentration. La mémoire des crimes nazis est inséparable de l'identité allemande, a-t-elle affirmé. Une forte de réponse au parti d'extrême droite AfD qui prône la fin du repentir allemand. L'État allemand va donner 60 millions d'euros pour l'entretien du site. On a tendance à l'oublier en France, mais la rougeole peut tuer. Les îles Samoa, vous allez le voir, sont en train d'en faire la douloureuse expérience. Ces dernières semaines, cet archipel de 200 000 personnes a déjà enregistré une soixantaine de morts. Le pays s'est volontairement coupé du monde et il a lancé une vaste campagne de vaccination. Laurent Aubaine.
Hier matin, l'archipel est entré dans une sorte de quarantaine. Les rues de la capitale sont vides. Les liaisons par bateau interrompues et 2 jours de congé ont été décrétés. Les maisons, les familles en attente de vaccins anti-rougeole ont été clairement identifiés par un chiffon rouge. Il s'agit de vacciner en 48 heures les 200 000 habitants des Samoa.
Nous avons beaucoup de volontaires et de personnel pour ces deux jours. Je pense que l'on va réussir à vacciner tout le monde.
Le tout en urgence, car depuis la mi-octobre, l'épidémie a déjà tué 63 personnes, dont 55 enfants de moins de 4 ans. Un porte-à-porte sanitaire qui permet de sauver des vies face à des familles souvent désemparées.
Je suis inquiète et perturbée. Je voulais l'emmener à l'hôpital, mais à cause de l'état d'urgence, je n'ai eu aucune possibilité de l'accompagner.
Il s'agit en deux jours de faire passer le taux de vaccination de 30 à 90% pour éradiquer la maladie, bien sûr, mais aussi lutter contre les campagnes anti-vaccination sur les réseaux sociaux qui font des ravages dans la population.
Vous savez, il y a tellement de gens qui sont anti-vaccination ici, et en plus, beaucoup de nos concitoyens font encore appel à des guérisseurs. Alors,
un touriste néo-zélandais en vacances à la mi-octobre serait à l'origine de l'épidémie. Ce matin, une vingtaine d'enfants étaient encore hospitalisés dans un état critique.
Venons-en maintenant à cette histoire à peine croyable dans les Pyrénées espagnoles. Une Britannique piégée dans une tempête de neige est revenue à la vie après un arrêt cardiaque qui aura duré 6 longues heures. Et elle va, vous allez le voir, étonnamment bien. Caroline Bell.
Cette Britannique de 34 ans, résidente espagnole, revient de loin.
Je ne suis pas croyante, mais c'est comme un miracle.
Quand les médecins de cet hôpital de Barcelone l'ont récupérée, le cœur de la jeune femme ne battait plus depuis au moins 2 heures. Elle venait d'être secourue dans les Pyrénées, victime d'une tempête, lors d'une randonnée avec son conjoint. À l'arrivée des secours, Audrey Marsh n'est pas consciente. La température de son corps a dégringolé de 37 à 18 degrés et son cœur ne donne aucun signe d'activité. Mais paradoxalement, cette hypothermie lui a sauvé la vie.
C'est l'hypothermie qui a arrêté son cœur, mais c'est aussi ce qui l'a protégé, car son cerveau a été capable de résister plus longtemps dans cette situation.
Normalement, après 4 minutes sans oxygène, le cerveau est lésé. Mais une fois à l'hôpital, les médecins ont utilisé cet appareil classique de réanimation, une machine capable de prendre le relais du cœur et des poumons et d'oxygéner le sang du patient. Progressivement, la température corporelle d'Audrey Marsh va remonter et après 6 heures d'arrêt, son cœur repart.
Mon cerveau n'a aucune séquelle. Je me sens bien, je vais pouvoir reprendre le travail et ma vie.
Cet incroyable sauvetage n'est pas un cas unique. En 2011, une Française de 57 ans avait été réanimée sans séquelles, elle aussi sauvée par une hypothermie.
Revenons en France avec ce chiffre, 133 euros, c'est le budget moyen consacré au cadeau de Noël de chaque enfant français cette année, une somme importante que tout le monde ne pourra évidemment pas se permettre. Alors le bon plan de cette fin d'année, c'est la bourse aux jouets, des jeux d'occasion généralement en très bon état et qui ne font que des heureux. Laurent Delsol et Pascal Marcelin.
Parents et enfants sont impatients. Les portes s'ouvrent sur un trésor. 7000 articles d'occasion attendent leur nouveau propriétaire.
Ça a l'air intéressant. Oui, c'est très très joli. Oui. Ah oui.
Premier arrivé, premier servi. Ici, pas de stock, mais des super affaires. Ce jeu vendu 4 euros au lieu de 37 dans le commerce. Cette version collector de Tabou, 3 euros. Tous les livres à 1 euro et les poupées à 3 euros, c'est 7 fois moins cher.
Donc, ce qui fait qu'on peut mettre un peu plus de choses sous le sapin.
On peut se refaire tous les jouets de l'année pour pas beaucoup.
Cette famille profite de l'occasion, mais ce n'est pas uniquement pour une histoire d'économie.
Pouvoir modifier en fait notre mode de consommation, donc du coup, c'est ce qui nous intéresse en ce genre d'événement.
Faire tourner la Terre dans le bon sens, c'est la nouvelle clé du succès de ces bourses. Parmi les 600 clients, nombreux sont ceux qui ont aussi mis en vente des jouets pour en racheter.
J'ai déposé une dizaine de jouets et puis on récupère à la louche une vingtaine d'euros, je dirais, parce qu'on vend vraiment à moindre coût.
Ok, et ça vous permet d'acheter de nouveaux jouets?
Exactement. Les jouets à piles, tous les jeux de société sont contrôlés. Les gens qui ont déposé hier auront un chèque de 200, 150, voire 200 euros.
En quelques heures, presque tout est acheté.
79
euros pour combien d'articles?
24 articles.
Les invendus seront ensuite offerts aux différentes associations caritatives.
Et ces jouets, ils viennent à 80% de Chine, un pays qui nous envie. En retour, notre architecture, la fascination pour le style européen est telle que des mini-Paris ou des petites Venises ont fleuri un peu partout sur le territoire. Une folie qui porte même un nom, la Duplicultures. Visite guidée avec Axel Carlou et Julien Cuseau.
Vous êtes sur une gondole. Face à vous, la basilique Santa Maria, les façades aux mille couleurs, le campanile, le pont du Rialto. Vous êtes à Venise. Enfin, pas si sûr, car derrière un pont émerge un moulin hollandais et même en arrière-plan de la basilique, une pagode chinoise. En fait, vous êtes en Chine, à 2 heures de Shanghai, dans ce qui est à la fois un parc d'attractions, un centre équestre et un musée à ciel ouvert du patrimoine européen.
Là, je trouve ça grand, très élégant. Rien à voir avec l'architecture chinoise.
Personnellement, je ne suis jamais allé à Venise. Alors, vous dire si ça ressemble ou pas, en tout cas, c'est joli.
Sur 260
000 mètres carrés, voici donc le caprice d'un milliardaire chinois qui a fait fortune dans le textile. Zhu Zhangping est passionné de cheval et d'architecture européenne, synonyme pour lui de prestige et de raffinement. Il a investi 460 millions d'euros pour faire partager ses passions à ses concitoyens. Mais rassurez-vous, il n'a pas perdu le sens des affaires. Les plus belles attractions sont payantes, 13 euros par exemple, pour entrer dans ses écuries royales.
Bienvenue au paradis des chevaux. Ici, nous avons 42 espèces du monde entier qui vivent dans un décor de marbre.
Plafond à caissons, colonnes, moulures, frises, sculptures, voilà donc des animaux traités comme des rois. L'architecture, nous dit-on, s'inspire à la fois de l'Autriche et de la France, deux grandes patries du cheval, alors qu'en Chine, il n'y a aucune tradition équestre.
Notre but, c'est de faire voyager les gens, les étonner, sans sortir du pays, en leur montrant l'élégance de votre style européen.
Et quand vient la nuit, quand Venise se transforme en Las Vegas, les lieux révèlent encore davantage leur extravagance. Sous des lustres de cristal inspirés des palais viennois, la grande parade nocturne. Les tableaux se succèdent, garde républicaine, saut d'obstacles acrobatiques, course de chars tractés par des mini-poneys, cortèges nuptiaux immaculés et scintillants. Les spectateurs ont dépensé 80 euros par personne pour une heure de spectacle. Sous le regard conquérant de Napoléon, ils jubilent.
Ces chevaux qui dansent, on voit rarement ça en Chine, j'adore. Ces lustres, cette ambiance, j'ai l'impression d'être en Europe à seulement 2 heures de chez moi, c'est grandiose.
Cette Europe qui fascine, on la retrouve partout en Chine. À Canton, au sud du pays, la réplique miniature de la basilique de Lourdes, sans sa grotte miraculeuse, attire des hordes de photographes et de jeunes mariés, pour eux, le comble du romantisme. Non loin de là, avec ses façades chatoyantes et ses balcons fleuris, voici la copie à l'identique de Hallstatt, une cité autrichienne classée à l'UNESCO. La version chinoise attire plus de touristes que l'original. Quant à ce château à Chengdu, au cœur de la Chine, il se veut le plus beau concentré de l'architecture française du 18e. Chaque pierre a été importée de Touraine par bateau. Public visé, les Chinois fortunés qui veulent organiser des réceptions inoubliables. Mais attendez, restez là, ce n'est pas fini.
Bienvenue à Paris, enfin presque, parce qu'ici la tour Eiffel est 3 fois plus petite que la vraie, et puis il y a quand même quelques détails qui tuent, hein, comme ce bâtiment pas très esthétique, et puis le champ de Mars qui ressemble littéralement à un champ de broussailles.
Voici Tianducheng, un mini Paris sorti de terre il y a 10 ans au milieu des champs de blé. Idée lumineuse ou fumeuse, vous choisirez, d'une société immobilière. Elle fait la joie des promeneurs chaque dimanche après-midi.
Regardez la tour Eiffel, c'est génial.
Moi, je trouve qu'on s'y croirait. On est venu là pour prendre des photos et on porte des vêtements qui vont avec le décor.
Je pense que c'est assez bien imité. Après, le linge qui pend aux fenêtres, ça fait bien chinois.
Le linge, les climatiseurs sur les façades, les différences sont nombreuses. Et que dire du prix des logements? 2500 euros le mètre carré, 5 fois moins cher que sur l'avenue Foch.
Moi, j'habite là, juste derrière.
Ici, la population est plutôt familiale. Ce sont des classes moyennes et populaires. L'ambiance est décontractée.
Ça donnerait presque envie de s'y installer. Mais à quoi peut bien ressembler un appartement haussmannien à sauce chinoise? Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous avec un agent immobilier. Les parties communes ne font pas rêver. La suite, vous allez le voir, non plus.
C'est pas les appartements haussmanniens, quand même.
Si vous vous attendiez à de beaux volumes, de la clarté, des parquets massifs, perdu. Aucun charme particulier, et le gaz de ville n'arrive pas jusqu'ici.
Ah oui, ça n'est qu'une...
Traces d'humidité, peinture craquelée, les appartements construits il y a 10 ans ont mal vieilli. Finalement, ce 53 mètres carrés à 160 000 euros nous paraît très cher.
Vous avez tort, c'est une bonne affaire. La plupart sont en moins bon état.
Moralité, Paris, comme Venise, est inimitable. Mais ses copies plus ou moins loufoques ont le mérite de nous faire voyager, nous aussi. Qui imaginerait franchement faire laver sa voiture au pied de la Tour Eiffel?
Et il arrive tout de même parfois que la copie égale l'original. Le nouveau spectacle de la scène musicale s'inspire du film de Steven Spielberg sur l'amitié entre un jeune homme et un cheval envoyé sur le front de la Première Guerre mondiale. Cheval reconstitué sur scène avec, vous allez le voir, un réalisme à couper le souffle. Laurent Del Sol et Damien Blondeau.
L'illusion est parfaite grâce à un jeu de mouvements très précis. Le cheval semble vivant. Le secret est à l'intérieur. Trois personnes l'animent. Elles sont à la fois marionnettistes, comédiens et bruiteurs.
Vous allez appuyer la respiration pour augmenter la sensation de fatigue et renforcer le sentiment d'épuisement.
Ses partenaires répètent toujours ensemble pour trouver la synergie. Une équipe soudée depuis 2 ans. Les répétitions avec le chorégraphe permettent des automatismes. Mais le secret de leur coordination est ailleurs.
Nous nous coordonnons grâce à nos respirations, comme le rythme des percussions pour une chanson. C'est incroyable comment tu t'adaptes aux différents signaux, aux indications que tes partenaires t'envoient, même sur des micro-mouvements très précis.
Ce cheval en rotin, aluminium et cuir pèse 66 kilos, sans compter le poids des cavaliers. 4 équipes de marionnettistes sont donc nécessaires et se relaient. Tous ont suivi une formation pendant 10 semaines, en moyenne, pour arriver à penser comme un cheval.
On a visité des écuries, on a vu des chevaux militaires et même des chevaux policiers ou d'autres en train de labourer. On essayait constamment d'exprimer un comportement réaliste, de comprendre la psychologie du cheval et de l'appliquer à la marionnette.
Sur scène, la magie opère à merveille.
On a l'impression que les chevaux sont là, vivent, respirent.
J'ai vu le film donc, de Steven Spielberg, et je trouve que ce qu'ils ont fait avec les chevaux, oui, c'est franchement extraordinaire.
C'est une belle histoire d'amitié, qui parle aussi d'histoire.
Car War Horse raconte l'histoire d'une amitié entre un adolescent et un cheval. Avec en toile de fond la Première Guerre mondiale. À mi-chemin entre théâtre et comédie musicale, ce spectacle offre une fresque subtile et impressionnante.
Et restez avec nous dans un instant. 20h Le Mag va vous raconter l'histoire d'une renaissance, celle de la chanteuse Rose qui s'est battue pendant des années contre ses addictions. A tout de suite.
Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.
Victorieuse et qui lui permet de démarrer une nouvelle tournée à Paris, son 5e album, qui raconte d'ailleurs son histoire. Voici son portrait signé Quentin Fichet, Florian Le Goic et Marie-Hélène Astrodo.
Elle les revoit très rarement. Ces images m'ont fait connaître.
À cette personne dans les clips, je me reconnais pas parce que j'ai honte, je suis timide, je suis fuyante. Je vois vraiment une enfant, une petite fille, moi.
c'était en 2006. Refrain connu de toute une génération. 650 000 albums vendus. Le succès. Avant la nuit.
J'ai voulu aller dans le mur parce qu'il n'y a que dans le mur que j'arrive à me relever. C'est vraiment un conte de fées qui vire au cauchemar.
Tandis que Rose enchaîne les mélodies douces, Keren, de son vrai prénom, vit la nuit.
Ça a été longtemps de la fête et de l'amusement. Malheureusement, l'addiction prend le dessus, tout commence à se transformer en chaos. La fête tourne mal.
L'alcool, la drogue, jamais assez.
Le seul moyen de quitter l'addiction et la dépression, c'est de quitter la vie. Voilà. Et ça, c'est... À ce moment-là, je pense à mon fils. Je pense à mon fils et je me dis, je vais pas pouvoir le priver d'une mère.
Alors, après plus d'une décennie, le déclic.
Le 11 octobre 2016, après une soirée encore, je m'inquiète pour ma vie et je me rends à l'hôpital comme on se rendrait après un délit. À ce moment-là, je découvre que sans tous ces produits, tous ces artifices, je vais de mieux en mieux chaque jour. C'est presque grisant. Ça devient une drogue, en fait, la sobriété.
Plus de gueule de bois, de bouteilles dans l'entrée. Keren, 41 ans, redécouvre les matins, revoit le jour. Et Johanna veille tout du long.
Quand elle n'était pas bien pendant cette période, évidemment que je le savais. Évidemment qu'elle ne me disait pas tout. J'étais impuissante.
Amie depuis la fac de droit à Nice.
Je sais qu'elle est là, comme ma sœur ou comme mes parents, et qu'à chaque fois ça m'émeut tout le temps. Ça va pas commencer quand même. Non mais c'est moi de savoir que les gens sont là. Quoi qu'on fasse.
On s'étire une première fois. Très très haut. On expire.
S'en sortir. Retrouver le public. Rose y est aussi parvenue grâce au yoga.
Guerrier de profil. Super.
Tu décharges de l'endorphine, c'est un antidépresseur, c'est un anti-fatigue. Il n'y a pas besoin de chimie, quoi.
Le fait de pratiquer me faisait en sorte que j'avais plus besoin d'autre chose. Donc j'ai pu baisser tout le traitement qui était mis en place depuis 2 ans, j'ai pu baisser grâce à ça.
Depuis 2 ans, sobre. Ce soir, premier concert de sa tournée à Paris.
La famille est là.
Ah, ils sont tous là.
Oh, il y a mon fils. Je pense que c'est des gens qui m'ont connue quand j'allais mal, quand je serais en train de picoler pour me rassurer. Et ça les fait rire un peu que je dise ce genre de phrases comme je suis vivante ou je me sens éclairée.
Sur scène dans 3 minutes. Pour chanter son histoire.
J'ai pas envie de jouer ce rôle-là de la fille qui vient de loin et qui aujourd'hui brille de mille feux, c'est pas du tout ça. Ce combat-là, moi je le mène encore tous les jours.
Rose et son sourire solaire qui a de quoi nous réchauffer, et ça tombe bien parce qu'on en a besoin. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Anne-Claire. Oui, vous avez raison, on en a besoin en ce moment. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la douceur revient. Oui, mais elle n'arrive pas toute seule avec la pluie. Déjà aujourd'hui, d'ailleurs, les températures ont commencé à se radoucir, notamment sur les régions du Nord, avec l'arrivée de ces nuages, alors que dans le sud et sur les régions de l'est, vous aviez beaucoup de soleil. Petit tour ce soir dans les Pyrénées, mais aussi en Bretagne. Alors à Cotteret, vous allez voir ce ciel bleu, neige magnifique, et pas mal de skieurs d'ailleurs sur les pistes. Alors à Saint-Brieuc, c'est vrai que le ciel était un petit peu gris, mais il y a eu très peu de pluie. Voici d'ailleurs ce qu'ont vu et enregistré les radars de Météo France. Donc des pluies avec de temps en temps des pluies verglaçantes comme prévu, et on sent
que ça devient un petit filet pluvieux. Tout simplement, pourquoi? Eh bien, parce que la perturbation qui est déjà arrivée le fait dans des hautes pressions, puisqu'on avait l'anticyclone qui nous protégeait. Donc, elle va continuer à traverser le pays. Et puis, on a une autre perturbation beaucoup plus costaud qui va arriver pour le week-end, avec ces fameux gradients resserrés. Ça veut dire qu'il y aura du vent. Alors, pour demain déjà, la perturbation qui est arrivée aujourd'hui, on va la retrouver avec beaucoup de nuages, mais très peu de précipitations de l'Aquitaine jusqu'au nord-est. Vous aurez des brouillards qui vont se reformer cette nuit, donc attention sur ces régions du nord. Dans le sud, vous aurez du soleil, mais avec du vent qui va d'ailleurs se renforcer un petit peu dans l'après-midi. Et puis la perturbation va faire quasiment du surplace, elle va se déliter sur place avec peut-être de temps en temps une petite éclaircie. Et encore, il ne faudra pas trop compter dessus. En tout cas, vous en aurez sur ces régions du nord et notamment vers le Boulonnais. Alors, voici justement les températures qui commencent à se radoucir. Il est vrai qu'elles seront encore un peu fraîches demain matin sur les régions de l'Est, entre 1 et 3 degrés, mais déjà 10 degrés pour La Rochelle. Et dans l'après-midi, ça va nous changer des jours précédents sur le Nord, puisqu'on dépasse souvent les 10 degrés, 14 degrés pour Brest, 12 à Amiens. Et puis dans le Sud, on devrait aller jusqu'à 17 degrés, ce sera pour Perpignan et pour la Corse. Alors, la suite, je vous montrais cette perturbation qui va arriver dimanche, beaucoup plus active, avec de la pluie et le vent qui va déjà souffler, notamment sur les côtes de la Manche, avec de l'instabilité. Vous aurez du soleil dans le sud-est. Et puis, dans la nuit de dimanche à lundi, on attend un coup de vent donc sur ces régions du nord-ouest. Et lundi, donc, un temps très agité, avec beaucoup de vent sur les côtes, dans les terres, sur les reliefs aussi, avec de la neige prévue. Ailleurs, ce devrait être des averses, mais vous en serez préservés près de la Méditerranée, sauf sur la Corse, où le vent soufflera encore très fort. Vous remarquez les températures qui sont douces. Et puis pour mardi, mercredi, jeudi, eh ben voilà, encore un temps très agité, des averses, du vent, vous connaissez l'histoire, avec une relative douceur. Demain, vous retrouverez Louis Baudin. Et pour terminer, Anne-Claire, nous partons en Russie, dans l'extrême nord. Et figurez-vous que ces ours sont nourris, prudemment, par les habitants d'un village proche. Tout ça parce qu'avec le réchauffement climatique, la banquise ne se forme plus assez tôt et les empêche de chasser pour se nourrir.